Thank you. chantait, la traduction est forcément très imprécise, soit il chantait derrière les boucliers, soit il mordait les boucliers dans le fort. Toute cette animalité qui ressort dans les thèmes de Bernard. C'est ça que j'ai exploré dans mon roman, c'est à la fois la transformation en animal, certes, mais surtout cette transformation en animal en réalité.
Et donc, vous placez certains personnages qui vont avoir affaire à ces créatures qui vont se transformer en ces créatures. Qui sont ces personnages?
Alors, c'est un trio d'amis, de très bons amis qui vont être. Il y a une fille et deux garçons qui vont se confronter donc, à cette malédiction. C'est un parasite, hein, les forces à ingérer, qui va les transformer en gardien. Et donc, chacun à leur façon. C'est une transformation qui est lente, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de se voir changer. C'est pas un truc qui est rapide comme la pleine lune avec l'hétérotropie et le mi-cendre. Tout de suite, là, c'est la transformation de Barzac, c'est une transformation sur une semaine. Donc, au fil des jours, ils voient les poils qui poussent, les ongles qui commencent à se corner, à devenir des griffes, des sabots, des poils ongulés. Ils ont le temps de se voir partir et surtout de sentir cette soif de sang, de carnage qui monte en eux. Donc, c'est extrêmement effrayant. Et ils ont l'espoir, s'ils rejoignent le roi des fous, que lui pourra les aider. Donc ils ont cette femme, cette petit espoir qui pourra arrêter la métamorphose en cours. Voilà, on raconte cette lutte interne. Et surtout, ils veulent se protéger les uns les autres, parce qu'ils savent que s'ils se transforment, ils vont s'entre-dévorer. Donc ils continuent à rester ensemble pour se protéger, mais il faut absolument qu'ils parviennent à trouver une solution, sinon ça va très mal finir.
Et c'était important, justement, ce temps de métamorphose que vous avez fait durer, donc, voilà, un certain nombre de pages, que ce soit des adolescents, justement, qui vont petit à petit essayer de lutter ou pas lutter contre cette métamorphose-là.
Il y a l'aspect classique, de quête initiatique des trois jeunes qui sont cette dégénérescence psychologique. Mais après, c'est parce qu'il y a un univers assez médiéval. Il y a la fantastique, là, avec les personnages sont jeunes, c'est un type de bien, c'est comme on le trône de fer, effectivement, les personnages sont très 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 jeunes, donc il y a des hommes.
Alors, je voudrais juste parler aussi un peu des louches encore. Il y a aussi quelques créatures bizarres, il y en a une en particulier qui m'a bien plu. Alors, je voulais vous lire ce petit extrait parce que vous avez essayé de visualiser certainement. Il n'était formé que d'une jambe fusionnée dans un bras. Ce corps se courbait en deux, dessinant la forme d'un U, afin de courir sur leurs pieds et leurs mains uniques. Un visage était plaqué dans la chair, des yeux, un nez de travers, mais surtout une bouche répugnante, pleine de dents. C'est une imagination
extraordinaire. Je me suis pour les louches en pente, comme le roi de fou, c'est la mythologie nordique, les louches en pente, c'est plus sibérien, donc je me suis inspiré du folklore russe. C'est une créature qui traumatise tout le monde. Les lecteurs, c'est les gens de Nive, ça s'appelle les enfants, vraiment super bizarre. Et c'est effectivement, c'est juste une jambe et un pied. Voilà, et ils marchent, du coup, ils sont en forme de vue, parce que normalement, il faut qu'ils marchent par leur pied et leur main. C'est une créature très bizarre. Mais le folklore russe, c'est plutôt sympathique au fond, parce que c'est souvent des créatures pas méchantes, plutôt farceuses. Ouais, les gens me disent qu'ils essaient de dévorer les héros, donc c'est pas forcément sympathique, mais c'est ça dans le folklore. J'ai presque du mal à trouver vraiment des monstres très féroces, parce qu'ils font plus des blagues en fait.
Alors, dans ce roman-là, vous vous intéressez au loup aussi, là aussi, il y a une sorte de possession, de transformation des personnages humains.
C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, l'animalité, sur le plan de notre animal intérieur, tout ce qui est cette vitalité, cette flamme, en fait, qu'on a en nous, qui est notre petit cœur de bête, comme on est dans tous les animaux. Ça m'intéresse à traiter, mais sur le plan assez vital, primitif. Les loups, ils courent, ils chantent, ils sont libres, ils sont ensemble, ils s'aiment, ils font des familles. C'est aussi des prédateurs très dangereux. Mais je veux aussi mettre en avant cette dimension très positive de l'animalité dans mes livres. travers leurs rêves pour les faire venir vers eux.
Alors, Karine Perrotin, on va passer à quelque chose de complètement différent avec vous, avec donc un groupe de punk qui vit bien tranquillement à Paris, dans un squat, et tout à coup, c'est l'apocalypse. Qu'est-ce qui se passe?
Thank you. Et qui va raconter Thank you.
Alors le zombie qui a bouffé le câble électrique a été enfermé.
Non, il marche. Ah si. Ouais. Bonjour.
Donc j'écris ça comment
Voilà, c'est ces grandes scènes d'affrontement entre le magicien et l'ogre.
Qu'est-ce que je vais pouvoir bien raconter là-dessus?
Est-ce que vous visualisez, vous, les choses? Est-ce que...
Je les visualise, mais je travaille aussi beaucoup avec les autres.
Oui, ça, c'est un peu le mystère de l'imagination. Comment, je ne peux pas vous dire comment ça me vient ou comment je les travaille en particulier, parce que c'est simplement des moments où tu t'arrêtes, où il va marcher un petit peu, puis tu laisses partir l'imagination en vrille, et puis tu essaies à un moment de rationaliser quand même un petit peu ce que tu fais pour pas que ça parte trop dans tous les sens. Et oui. Voilà.
Vous essayez de rationaliser les choses quand vous écrivez
De les organiser un petit peu, quoi. Oui.
Pour que ça soit, en fait, pour que le lecteur entre mieux dans votre imaginaire.
Moi, j'avais... Non, c'est-à-dire que quand l'imagination travaille, parfois c'est un feu d'artifice, ça part dans tous les sens, il faut choisir une idée ou une autre, quoi.
Vous ne cédez pas à l'éparpillement, des idées qui vont un peu dans tous les sens, comme ça. Vous avez... Moi, je sais pas, l'idée de rationalisation, ça ne me vient pas quand je lis. Quand je lis comme ça, j'ai plutôt l'impression d'un imaginaire beaucoup plus libre.
Justement, la dernière scène de Dévoreur, c'est quand même une succession d'images fortes. Je me suis permis justement de pas trop trier, d'enchaîner un petit peu les images frappantes qui me venaient, quoi.
Qu'est-ce que vous vous permettez, par exemple, avec l'archétype de l'ogre? Qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous rejetez de cet archétype-là? Qu'est-ce que vous vous permettez avec cette figure-là?
Moi, ce qui me marquait surtout derrière, c'était l'idée du mythe de Cronos. Moi, je repense à la peinture de Sequoia, qui dévore l'ogre, Cronos qui dévore ses enfants. C'est une peinture qui est terriblement puissante, effrayante. Il y a une animalité là-dedans, il y a une avidité. En même temps, c'est une figure paternelle, un peu selon les canons grecs, c'est vraiment une peinture qui a une force de fascination qui est géniale. On a presque envie de devenir un ogre quand on voit ça.
Vous avez, Paul, des contes qui vous ont inspiré particulièrement?
Alors, l'inspiration, c'est toujours très très compliqué.
Mais moi, je veux savoir, justement, ça m'intéresse.
Oui, parce que quand on parle d'ogre, on a tous cette vision de Goya, justement. Espèce de corps déchiqueté de l'enfant à moitié dévoré dans la bouche de l'homme. Et puis j'ai du mal à visualiser les personnages. Pour moi, ça reste assez abstrait. Je pense aussi à toutes ces histoires que je raconte à mes enfants le soir. L'histoire d'ogre, des bottes de 7 lieues, du chapeauté. C'est des choses qui font qu'on a, enfin, c'est un imaginaire commun, parce que tu parlais tout à l'heure des monuments que tout le monde connaissait. C'est pareil, quand on parle d'ogre, on a tous des images en tête. Ça permet de ne pas inventer une créature qu'on appellerait le jugroom, c'est qu'il faudrait décrire pendant 10 pages pour que les gens comprennent. Là, un ogre, c'est très visuel, c'est facile. Je lui ai donné une apparence un peu de clown aussi. Je sais pas si tout le monde a peur des clowns, moi quand j'étais petit, ça
dépend lesquels.
Ça me faisait un peu peur. Un personnage déjà très volumineux. Un personnage qui a une odeur très forte de nourriture, un personnage qu'on entend avant qu'il arrive parce qu'il est tellement lourd qu'on sent les vibrations du sol sous ses pas, un personnage qui n'a aucune discrétion, c'est-à-dire qui, derrière son passage, c'est la dévastation la plus totale.
C'est moi.
D'accord.
Alors, pour finir, Karim, sur ce que vous faites de ces zombies-là, par exemple, vous faites des choses, ça m'a fait assez rire. Par exemple, ils gèlent en hiver. ça pourrait bien arranger finalement plein de chasseurs de zombies qui se posent des problèmes. On n'aura qu'à attendre un bon froid et puis on va pouvoir décimer tout le monde. Et on peut aussi pas mal les hypnotiser avec de la musique. Ils sont très sensibles.
Ben ça, c'est un, oui, voilà. Donc, les punks faisant de la musique, ils découvrent rapidement que quand ils font un concert sur le toit d'un immeuble, les zombies se mettent à danser en bas, ils dansent le pogo. Donc, de fil en aiguille, on va découvrir que de ce qui reste, il ne reste pas grand chose dans leur cervelle, mais il reste quelques trucs qui déclenchent des réflexes, oui. Et notamment la musique. Enfin, les sortes de musique vont déclencher certaines réactions. Donc, c'est un peu le but du jeu dans le livre, de trouver qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire faire.
Ouais. Et il y a aussi des épisodes d'histoire naturelle.
Oui, alors.
Qu'est-ce que vous avez contre
Critique aussi.
Oui, oui.
Alors, Histoire naturelle, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une émission qui passait tard le soir ou tôt le matin, qui racontait des histoires naturelles, des pêcheurs, des chasseurs, des machins, et c'était absolument horrible. Ça participe, ça peut jouer à mon œuvre en fait. Moi. Je me suis retrouvé souvent devant la télé, notamment après les concerts ou après les. À regarder Histoire naturelle, notamment un épisode fameux avec les ortolans. Les ortolans sont des petits oiseaux et il y a une sorte de secte qui mange des ortolans, se mettant des. Ça, c'est pas des légendes. Hein. Ils se mettent des leurs serviettes au-dessus de la tête, ils disent plus rien et puis tout d'un coup ils se mettent à faire des bruits. Genre. C'est tradition, hein. c'est pas méchant ni rien, mais le jour où j'ai vu ça, j'ai fait oulala, we're doomed.
Comme quoi, on peut être traumatisé par des choses tout à fait différentes.
Par des choses tout à fait anodines. Mais bon, l'histoire naturelle n'existe plus. Ça a tourné en boucle pendant des années sur les télés.
Voilà. Bien, messieurs, il me reste à vous remercier pour vos réponses. Merci pour ces traumatismes d'enfance qui ont ressurgi et qui vous séduisent. Merci à vous tous d'avoir été attentifs malgré nos problèmes techniques. Bon dimanche, bon festival.